Voilà. Donc on est effectivement aujourd'hui, la sœur Ghislaine l'a dit, le 11 novembre 2018, en fait, les 100 ans de l'armistice, de la fin de la Première Guerre mondiale, et toujours donc dans un peu sur ce thème, pas un peu, beaucoup sur ce thème, je nous invite aujourd'hui à méditer sur quelques versets de la lettre de Paul aux Romains. On lira Romains chapitre 12, les versets 17 jusqu'au chapitre 13, verset 7. Mais on lira le texte en deux temps. Donc d'abord la fin du chapitre 12 et ensuite on lira donc les premiers versets du chapitre 13. L'apôtre Paul, pendant 11 chapitres dans cette épître, dans cette lettre aux Romains, a détaillé le plan de Dieu pour le salut des hommes. 11 chapitres constituant peut-être l'exposé dogmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit l'enseignement peut-être le plus riche qu'on puisse avoir dans tout le Nouveau Testament sur la manière dont Dieu a conçu et réalisé son projet pour le salut des hommes en offrant son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et au début du chapitre 12, il dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, cette immense bonté qu'il a détaillée sur 11 chapitres, nous sommes invités à cause de cette immense de Dieu à lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable qui plaise à Dieu. » Chapitre 12, donc, les versets 17 à 21. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. La sœur Ghislaine l'avait rappelé tout à l'heure, un petit peu, pendant la première partie de ce culte. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, en Matthieu chapitre 5, je suis dans l'épître, dans Marc, voilà. Matthieu chapitre 5 au verset 9 disait « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. » Dans d'autres versions, « Heureux les ouvriers de paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Je répète, « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Oui, notre Dieu est un Dieu de paix. Et à plusieurs reprises, l'apôtre Paul, en Thessaloniciens, en Philippiens, en Romains, appelle Dieu le Dieu de paix. Dans les religions où il y a plusieurs dieux, il y a un Dieu pour la fécondité, il y a un Dieu pour la guerre, il y a un Dieu pour les récoltes. Le Dieu véritable, le Dieu unique que nous adorons, ne se fait pas appeler un Dieu de guerre. Il est le Dieu de paix. La sœur l'a rappelé aussi. Encore faut-il bien comprendre quelle est cette paix. Il me semble, en plus des nombreux versets que nous avons lus en ce matin, que nous avons en Colossiens chapitre 1, les versets 19 à 22. Colossiens chapitre 1, versets 19 à 22. Un résumé de cette paix que Dieu donne. Colossiens chapitre 1, versets 19 à 22. Car c'est en lui, c'est en Jésus, que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des choses mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Si notre Dieu est un Dieu de paix, c'est parce que nous étions sous sa colère. Nous étions ses ennemis. Le texte dit autrefois. Il ne nous a pas laissés dans cette condition d'ennemi. Lui, qui était offensé par nos fautes et nos péchés, il est venu, non pas simplement avec de bonnes intentions, mais avec des faits réels, nous offrir la vraie paix, la réconciliation avec ce Dieu véritable, ce Dieu unique. Oui, Jésus-Christ est celui en qui Dieu nous donne la paix éternelle. Dieu est un Dieu de paix. Et c'est pour ça que ceux qui suivent son Fils Jésus-Christ doivent être des artisans de paix, suivant le modèle de Dieu que Jésus a montré. Et c'est ainsi qu'ils seront reconnus comme les enfants de Dieu, parce qu'ils imitent leur Père. C'est normal. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est ni plus ni moins ce que, entre autres, l'apôtre Paul explique dans ces versets que nous venons de lire. Les versets que nous lisons là commentent concrètement ce que c'est que être des ouvriers de paix. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Si ton ennemi a faim ou soif, voyez, être un artisan de paix, c'est pas juste quelqu'un qui cherche à être en paix. Non, c'est pas tout à fait ça. Parce que si ton ennemi a faim ou soif, tu peux le regarder et puis, ben, moi je veux être en paix, je veux qu'on me laisse en paix. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu a fait. La paix à laquelle nous sommes invités est une paix active. Être un ouvrier, un acteur de réconciliation, de paix. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça sera mettre sur sa tête des charbons ardents. C'est une image qui est très débattue. Moi, je la comprends comme un acte qui va lui donner à réfléchir. Ah oui, ça va chauffer un peu dedans. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire par là ? Lui, mon ennemi que j'aime pas, il me donne à manger alors que j'ai faim, j'ai soif. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible est toujours très lucide sur la dureté du cœur de l'homme. Il y a là, même en étant un artisan de paix, pas la garantie qu'on aura toujours la paix. L'apôtre Paul de dire au verset 18, « Autant que possible, autant que ça dépend de vous,
Vivez en paix avec tout le monde. Faites ta part de manière active. Mais si en face, l'ennemi reste dans son attitude de conflit, alors que faire si ce n'est prier? Répondre au mal par le bien, vivre en paix avec tous les hommes, autant que cela dépende de nous. L'apôtre Paul de dire au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Brise l'engrenage du mal. » Il y a comme un combat. Quelqu'un me marche sur le pied, je lui repose, je vais marcher sur son pied, il me donne un coup, je vais lui donner un coup plus fort. Il m'insulte, je le frappe. Non. Il y a là une pulsion qu'il faut vaincre. Et l'apôtre Paul d'utiliser l'image du combat. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Réponds au mal par le bien. Nous avons un Dieu de paix. Et nous marchons dans ce monde comme des artisans, des ouvriers, des acteurs de paix. S'il y a des conflits, nous faisons tout notre possible pour qu'il y ait réconciliation. C'est ainsi que nous sommes les enfants du Dieu de paix. Cependant, comme souvent dans la Bible, vous voyez, c'est les mots comme ça, paix, amour. Nous, on a notre définition souvent très romantique. Oui, moi je suis un artisan de paix. Je fais tout pour la réconciliation. Ouh là là, moi je fais jamais d'histoire. Ah, ça c'est la vraie paix. Et Dieu est comme ça. Dieu est pacifiste. Oh là là, donc on imagine, comme souvent sur les tableaux, un Jésus comme ça, tout chaud. Je vous laisse la paix. Ça c'est entre vous. Je vous donne ma paix. Elle est différente. Et là, il faut comprendre. C'est que, en fait, quand le chrétien lit la Bible, c'est pour essayer de s'approcher de la logique de Dieu. Donc, je prends mon intelligence, je la mets de côté et j'essaie de comprendre un peu. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et déjà, dans les textes qu'on a lus, ce n'est pas une paix gratuite. Parce que qu'est-ce qu'il est dit? Verset 19. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même. Et là, tu te dis, mais je vais subir toutes les injustices. Et puis, ben, finalement, c'est la vie. C'est la fatalité. Le chrétien, il est là pour subir les injustices. Comme si finalement, Dieu était indifférent au mal, au bien. Nous, on est là pour faire que le bien. Subir tout, comme des serpillères. Non! La paix de Dieu est une paix qui s'accompagne de la justice de Dieu. Je relis. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même. Et l'apôtre Paul de poursuivre. Mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est moi. Plutôt, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est pas insensible aux injustices que nous subissons. Notre Dieu, oui, prend bonne note de tout ce qui se fait ici-bas. Et l'injustice le met en colère. Mais le chrétien, ouvrier de paix, supportant ses actes d'injustice, s'en remet à Dieu, qui lui appliquera à chacun son dû, selon sa justice parfaite. Soit celui qui commet l'injustice se répand. Et gloire à Dieu, nous gagnons un frère et nous nous réjouissons de cela parce que Dieu pardonne son injustice. Soit il ne se répand pas. Et tôt ou tard, dans ce monde ou dans le suivant, Dieu lui rendra son dû. Voyez, c'est pas une simple justice comme ça, une simple paix, oui, ben, et puis on laisse. Non! Il y a une justice. Il y a une justice. Tôt ou tard, Dieu rendra à chacun son dû. Nous sommes sous la colère de Dieu, sous son jugement, sous sa justice. Et qui se repent et accepte Jésus-Christ entre dans cette relation de paix. Mais qui refuse cette offre verra tôt ou tard qu'il lui sera réclamé justice. Donc Dieu n'est pas indifférent face au mal que nous pouvons voir autour de nous. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Comment se manifeste cette colère de Dieu ici déjà sur terre? Et ça sera mon deuxième point. Le premier point, c'était ouvrier de paix comme un Dieu de paix. Le deuxième point, nous allons pour cela lire le chapitre 13 de Romains, les versets 1 à 7. Un des moyens que Dieu utilise pour exercer sa justice déjà dans ce monde, ici-bas. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Verset 4. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort, ou dans certaines versions, qu'elle a une épée. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes, à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Amen. L'apôtre Paul a commencé à dire, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu qui fait justice. Et là, il enchaîne tout de suite en parlant des autorités. Les autorités établies par Dieu. L'apôtre Paul de donner l'exemple des services fiscaux, ceux à qui on paye les impôts. Mais on pourrait parler de la police, de l'armée, je ne sais pas moi, de l'école. Ces institutions terrestres qui gèrent notre vie sociale, la Bible nous dit que oui, elles ont une légitimité du point de vue de Dieu. Ceux qui en sont à la tête sont au service de Dieu. Pourquoi? Pour faire le bien et pour punir le mal. Et l'apôtre Paul utilise l'image de l'épée pour dire même qu'ils peuvent punir de mort de la part de Dieu. Oui, les autorités, les institutions qui nous entourent sont déjà un moyen que Dieu utilise pour exercer sa justice déjà ici sur terre. Et nous sommes invités à les respecter. Et l'apôtre Paul de nous y soumettre. Vous voyez, des fois, quand on lit ces textes, on se dit, oui, mais ils sont tellement corrompus, tellement mauvais. Oui, mais l'apôtre Paul écrit aux Romains, et l'empereur, à l'époque, était quelqu'un qui tuait les chrétiens. Néron. Et pourtant, Paul rappelle à ses Romains de respecter l'autorité de l'Empire. Car ils ont été établis par Dieu pour faire le bien et punir le mal. Dieu leur donne en quelque sorte une épée. Et là, je vois que les chrétiens sont très embarrassés. Quand on dit que Dieu est un Dieu de paix, amen. Mais quand on dit de respecter des autorités des fois corrompues, on n'est plus chatouillé. Je viens de lire, il me semble, la parole de Dieu. Il n'y a pas tellement besoin de commenter, c'est très clair. En Matthieu chapitre 26, l'apôtre Pierre, croyant bien faire, au moment de l'arrestation de Jésus, sort une épée, coupe l'oreille des soldats. Matthieu chapitre 26, et Jésus lui dit non. Qui vit par l'épée, mourra par l'épée. Nous n'avons pas à défendre le royaume du Christ par l'épée. Non, 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 non. Jamais de la vie. Mais ce texte nous dit qu'il y a des institutions à qui Dieu a remis une épée pour exercer une autorité. Et là, nous devons nous soumettre. La police, la gendarmerie, les services fiscaux, l'État, le gouvernement, nous sommes appelés à nous soumettre à leurs autorités, car c'est aussi par eux que Dieu limite le mal sur terre. Et je trouve que cela nous amène à une réflexion sur la guerre. Oui, notre président pourrait être amené à déclarer la guerre ou à répondre à une déclaration de guerre. Comment le chrétien se positionne? Que nous disent ces textes? Est-ce que Dieu peut approuver une guerre? Et donc là, il faut qu'on fasse une petite réflexion. Et pour le faire, il faut résumer tout l'enseignement de la Bible. Donc là, je n'ai pas le temps de le faire en si peu de temps. Mais j'aimerais retenir un ou deux points. Voyez, ça nous embarrasse, mais notre Dieu, il sait aussi faire la guerre. Voyez, quand on lit l'Ancien Testament, Dieu a plusieurs fois épargné son peuple de la guerre. Par exemple, quand ils sortent de l'esclavage, il est dit que Dieu leur fait faire un détour parce que non, ils ne pourront pas faire face aux ennemis qu'ils vont rencontrer. Là, on reconnaît bien le Dieu de paix. Mais quand ils entrent en Canaan, c'est bien le même Dieu qui leur dit eh bien, que c'est par la guerre qu'ils doivent prendre possession des terres. Il faut exterminer tout ce que vous trouverez sur les terres que je vous donne. Le chrétien moderne est embarrassé par ça. On se dit, oui, mais bon, c'était l'Ancien Testament. Mais dans ce cas, il faut lire le livre de l'Apocalypse pour se rendre compte que là, c'est le même Dieu. Et voir que même à travers ces guerres, Dieu donne un enseignement. Ne vous confiez pas dans les armes, mais confiez-vous en Dieu. Et en cas de défaite, par exemple, Dieu invite à la repentance. En cas de menace, Dieu invite à lui faire confiance plutôt que de rentrer dans des alliances militaires. On a par exemple tout un chapitre de la Bible, Deutéronome chapitre 20, pour ceux qui le souhaitent. Tout un chapitre de la Bible où Dieu donne des lois en cas de guerre. Et là, on s'est dit, mais ça alors, pour un Dieu de paix, c'est vraiment curieux. Et c'est là où il faut comprendre la logique de Dieu, différente de notre logique. Le monde qui nous entoure est un monde qui est déjà en guerre avec Dieu. Nous sommes plus choqués de voir des gens mourir pendant des guerres plutôt que d'être là, de marcher avec eux et de savoir qu'ils se dirigent tout droit vers quelque chose qui est bien pire que de mourir lors d'une guerre. Les peines éternelles. Dieu utilise aussi les guerres pour montrer à la face du monde quelle est notre vraie situation si nous ne nous repentons pas. C'est ce que Jésus a dit en Luc 13 aux gens qui sont venus lui demander, mais ah, tu as vu que Pilate a tué ces juifs qui venaient faire des sacrifices. Et Jésus lui dit, mais tu penses qu'ils étaient pires que toi? Et ce sur qui la tour de Siloé est tombé, qu'est-ce que vous croyez? Repentez-vous, sinon vous aussi, vous périrez. Alors oui, c'est vrai, on aurait bien aimé un monde sans guerre. Un monde où la paix de Dieu se répande partout. Mais Jésus nous dit ceci, il n'y aura pas de paix jusqu'à ce qu'il vienne. Et la Bible va plus loin. Il faut se méfier du jour où on dira paix et sécurité. Alors là, tu dois être inquiet. Ah oui, le prince de ce monde viendra avec son agent l'Antichrist, avec la prétention d'établir dans ce monde un monde de paix. Méfions-nous. La guerre ici-bas ne s'achèvera jamais jusqu'à ce que Christ revienne. Et c'est au milieu de ces guerres, c'est dans ces guerres-là que Dieu nous appelle. Viens à moi, change, réponds-toi. Voici ce que l'Église doit annoncer au monde plutôt que de penser qu'il n'y aurait plus de guerre. C'est vrai, nous avons un Dieu de paix. Nous sommes dans un monde en guerre contre Dieu. Mais nous savons que Jésus a payé le prix pour que nous soyons en paix véritable avec ce Dieu de paix. Et nous savons qu'un jour, et ce sera le dernier point de la prédication, la paix éternelle, la paix véritable sera établie. Le prophète Michée au chapitre 4, au verset 3, donne l'image d'un jour où sur la montagne de Dieu, les hommes vont prendre leurs épées et puis les transformer pour en faire des charrues. Ils vont prendre leurs lances, les transformer pour en faire des fossiles, des outils pour cultiver. Vous connaissez bien ces images du prophète Ésaïe où le lion et l'agneau cohabitent en présence d'un petit enfant. Le jour viendra où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni pleurs. Et l'Église attend ce jour. Ce jour viendra avec son Seigneur. Chaque guerre, chaque conflit nous rappelle que nous devons aspirer à ce jour ultime où Christ instaurera la paix véritable. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse se termine par ce soupir. Maranatha, viens, viens Seigneur, viens, afin que rien ne nous sépare de ton amour. Viens nous aider à persévérer dans la foi malgré ces combats, ces bruits de guerre. Viens nous aider à tenir ferme dans l'attente de ton retour. D'ici là, oui, il y aura encore des guerres. Il y aura l'Église persécutée. Il y aura tous ces conflits. Et dans tout cela, n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu de paix et que nous devons être des artisans de paix et qu'il exerce sa justice même au milieu de ce chaos. Il exerce aussi sa justice afin que le mal soit limité Je prends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus proche de nous. Il fallait bien une guerre pour arrêter l'action des nazis. Il fallait bien une guerre. C'est triste à dire, mais c'est la condition de l'homme. Et la Bible nous dit que le problème ne vient pas des économies. Le problème ne vient pas de la géopolitique. Tout ça, c'est superficiel. Le vrai problème, c'est le cœur de l'homme, le péché, qui nous détourne de Dieu et qui nous conduit à être des ennemis les uns pour les autres. La prière de l'Église du Seigneur, c'est « Père, garde-nous entre tes mains. Garde-nous au milieu de ce chaos. Qui sait si un jour la France sera en guerre? Qui sait ?» Certains s'appuient sur ces textes pour dire que ben, si notre pays est en guerre, que le gouvernement nous invite à partir en guerre, alors il faut qu'on le fasse. Puisque là, c'est écrit, soyez soumis aux autorités. C'est vrai qu'il faut être soumis aux autorités, mais il faut ajouter à cela un autre principe que nous voyons notamment dans le livre des Actes, ou que nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, dans la vie de personnes comme Daniel, où je peux remonter même jusqu'à l'Exode. Quand Pharaon a demandé aux femmes de tuer les petits garçons juifs, qu'est-ce qu'elles ont fait? Vous vous rappelez de cette histoire? Elles ont désobéi. Quand le souverain a donné un édit pour qu'on l'adore lui seul, qu'est-ce que fait Daniel? Il monte dans sa chambre et il prie son Dieu. Quand les apôtres sont menacés en Actes chapitre 5, qu'on leur dit « Arrêtez de parler de ce Jésus !» Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voici le principe qui complète la soumission aux autorités. Ces autorités sont établies pour être des instruments de Dieu. Mais là où ces autorités s'éloignent de la parole révélée de Dieu, l'Église, le chrétien, est invité à faire un choix tranché. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et cela peut aller jusqu'à subir la
mort.
La mort. C'est ça la vie du chrétien ici. Donc, s'il y a une guerre en France, il faut qu'on discerne. Cette guerre, est-elle juste? Est-elle justifiée? Là, je n'ai pas de réponse toute faite. Il faut qu'on prie pour savoir ce que Dieu attend de nous. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que ne faut pas qu'on se dise que parce que Dieu est un Dieu de paix, alors Dieu désapprouve toute guerre. Non, on le voit bien dans l'Ancien Testament, voyez. Aussi, ce que je nous propose par contre, c'est de prier pour que notre pays, la France, ne soit, si Dieu le veut bien, jamais en guerre. Mais la guerre est une réalité à travers laquelle Dieu nous enseigne. Réponds-toi et change. Le Dieu de paix te tend la main. Réponds-toi et change pendant qu'il est encore temps. Je vais prier. Seigneur, c'est vrai que ce dimanche d'armistice, nous aurions aimé parler que de paix. Mais autour de nous, encore aujourd'hui, le 11 novembre 2018, dans le monde, il y a des guerres. Il y a des guerres. Et des chrétiens crient à toi, Seigneur. Et cela peut nous arriver aussi, Père. Et nous nous demandons comment agir. Ce que nous savons, Seigneur, c'est que tu es le Dieu qui nous donne la paix véritable. Et nous nous confions en toi et nous prions que rien ne nous sépare de ton amour. Pas même la mort. Tu nous invites à t'obéir plutôt qu'aux hommes. Tu nous invites à être des bons citoyens en nous soumettant aux autorités. Mais tu nous invites aussi à discerner. Mais tu connais, Seigneur, nos faiblesses. Nous prions que ton Saint-Esprit même aide ton Église à être ton témoin dans ce monde mauvais. Aide-nous, Seigneur, à savoir comment agir face au mal qui se propage. Aide-nous à être des ouvriers de paix dans ta vérité, dans ton amour. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.